Bonsoir, dialogue entre Congolais reçoit en invité spécial Alain Leroy, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix, qui fait le point de sa visite en RDC. Il est avec nous dans ce studio. Bienvenue, Monsieur Leroy, dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Voilà, juste rappeler à nos auditeurs qu'exceptionnellement pour aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure de recevoir vos réactions, chers auditeurs. Veuillez nous en excuser. Alain Leroy, vous êtes secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix. Vous venez de passer une semaine en RDC. Évaluer l'avancement de la paix en RDC, c'est le but que vous avez fixé à votre visite. À quel résultat êtes-vous arrivé?
Ben, j'ai pu voir énormément de changements très positifs. Comme vous le dites, j'étais venu l'année dernière, exactement à la même période, début novembre aussi. Et à l'époque, c'était une sorte de crise, en particulier près de Goma, quand le CNDP était très menaçant. Donc c'était une période de tension très forte. Et évidemment, je peux voir les très grands progrès qui se sont faits en un an. Là, c'était, il y a encore beaucoup de choses à régler, mais quand même, on est vraiment sur la voie de sortie de crise et le pays est évidemment sur la bonne voie. Alors, il reste un certain nombre de problèmes, mais quand même, alors, la relation, comme chacun le sait, la relation entre la RDC et le Rwanda se sont vraiment apaisées, des échanges des ambassadeurs qui ont lieu. L'ambassadeur de RDC à Kigali est arrivé, je crois, il y a un ou deux jours. Donc, tout ça, ce sont de très bons symboles, évidemment, de l'amélioration de la situation. Je crois qu'il y a beaucoup de progrès dans la lutte contre les FDLR. On pourra en reparler, bien sûr. Tout ce qui a été fait dans le plan de stabilisation pour l'Est, l'UNSSS, en appui du STAREC, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très favorables. Dans l'intégration des groupes armés dans les FRDC, énormément de progrès ont été faits. Et bien sûr, il faudrait encore beaucoup plus loin pour arriver vers une véritable armée professionnelle, républicaine et disciplinée. Et je crois que la MINUC est toute prête à apporter évidemment son assistance. Voilà, beaucoup de domaines dans lesquels de très grands progrès ont été accomplis. Mais on est encore, il en reste beaucoup à faire encore, bien sûr.
Alors, lors de votre passage au Nord Kivu, vous avez condamné le massacre de 62 personnes civiles dans le secteur de Loupéti. Et comme conséquence, la MONUC a suspendu son appui logistique aux unités des FARDC mises en cause dans ce massacre. Pourquoi cette décision du moment qu'il n'y avait pas encore une enquête pour établir les responsabilités?
Parce qu'il y avait déjà les résultats très clairs d'une enquête préliminaire par ce que nous appelons le Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et là-dessus, les éléments qui nous ont été rapportés sont malheureusement très clairs. Ils ont la preuve qu'au moins 62 civils ont été tués par des éléments appartenant à la 213e brigade. C'est évidemment un crime très important. Et c'est pour ça que c'est les directives du Conseil de sécurité qui consistent à dire nous ne pouvons pas soutenir une unité qui porterait atteinte de façon forte aux droits de l'homme. Et là, évidemment, cibler les civils, c'était évidemment extrêmement grave. Donc, nous avons en tête, bien sûr, la politique de la zero tolerance policy, la politique de tolérance zéro du président de la République. Ce que nous avons décidé, c'est que nous, conformément aux directives du Conseil de sécurité, nous avons suspendu immédiatement le support à la 213e brigade. Bien entendu, avant de prendre ces décisions, nous avons informé toutes les autorités militaires, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, bien sûr, avant de prendre la décision. Mais nous suspendons, mais en même temps, avec les autorités militaires, nous lançons immédiatement une enquête conjointe, détaillée, pour établir l'ensemble des faits. Bien. Et puis également, nous allons déployer une base temporaire également à Loukouéti, ça nous paraît très important, de la MONUC, pour à nouveau rassurer les citoyens sur place.
Le gouvernement, qui est partenaire de la MONUC hein, dans les opérations Kimia 2, par son porte-parole, le ministre Mende a jugé que cette décision était unilatérale.
Alors, c'est vrai, c'est une décision de la MONUC. C'est à nouveau qui applique les directives du Conseil de sécurité qui nous dit vous pouvez soutenir les opérations de FRDC, un, s'il y a planification conjointe, et deux, s'il n'y a pas de violation des droits de l'homme ou des droits internationaux humanitaires. Donc nous sommes exactement dans ce cas-là, donc c'est une décision de la MONUC de suspendre, mais comme je le dis, évidemment, avant de prendre la décision, nous avons informé les autorités militaires, les la défense, les états-majors et autres, bien sûr, mais c'est vrai que c'est une décision de la MONUC qui relève des directives du Conseil de sécurité.
Votre séjour en RDC correspond à ce nouveau rapport de Human Rights Watch sur la multiplication des atrocités commises par les FRDC dans le cadre de l'opération Kimia 2 à l'est de la RDC. Human Rights Watch demande à la MONUC de suspendre son soutien aux FRDC, faute de quoi elle risque d'être impliquée dans de nouvelles atrocités.
Alors, je sais bien, c'est une question évidemment très complexe. Mais en même temps, nous avons un mandat du Conseil de sécurité qui est d'assister les forces armées de la République démocratique du Congo pour désarmer les groupes rebelles. Et c'est très clair, et en particulier les FDLR, donc ça, c'est parfaitement clair. Et encore récemment, le Conseil de sécurité nous a renouvelé notre soutien dans cette action de soutien, de support aux FRDC dans leur action militaire contre les FDLR. Mais il y avait des limites très précises, et ça je le reprécise, le Conseil de sécurité était très clair, je le redis parce que c'est important, il faut qu'il y ait planification conjointe, c'est le cas, et il faut ensuite qu'aucune unité ne se livre à des violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Donc quand il y a violation des droits de l'homme, et c'était le cas là, dans la région de Nouakchott, nous devons suspendre immédiatement, c'est à nouveau les directives du Conseil de sécurité. Il est évidemment majeur pour nous que nous, et le Conseil de sécurité était très clair sur ce point, que nous augmentions encore notre façon de protéger les civils. C'est très clair que là, il y a encore des civils ont été tués, donc nous pouvons encore faire mieux. Je l'ai dit immédiatement, nous mettons une base temporaire sur place, mais nous décidons que pour le moment, le soutien global à l'opération Kimia 2 n'est pas arrêté, c'est le soutien à 213e brigade seulement est arrêté. Mais évidemment, nous allons revoir la question avec le Conseil de sécurité. C'est lui qui décide, in fine, des grands axes de l'action de la MONUC. Mais évidemment, c'est une question très compliquée. Nous avons le sentiment que si nous supprimions tout le soutien à l'opération Kimia 2, ça ne serait pas au profit des populations civiles. J'ai été visité sur place moi-même, j'ai été plus voir beaucoup de sites dans l'Est, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, et c'est très clair que les populations civiles apprécient énormément la présence de la MONUC pour contribuer à se sentir protégées et rassurées. Donc le soutien à l'opération reste important et la présence de la MONUC répartie dans le Nord et dans le Sud Kivu reste essentielle.
Toujours par rapport au soutien de la MONUC à l'opération Kibia 2, je vous cite un extrait de ce rapport de Human Rights Watch. La volonté persistante de la MONUC d'apporter son soutien à des opérations militaires pendant lesquelles sont commises des exactions l'implique dans des violations des lois de la guerre. Comment y répondez-vous?
Je réponds à nouveau que la question a été débattue très récemment au Conseil de sécurité, encore le 16 octobre dernier. Et le Conseil de sécurité a renouvelé son soutien à la MONUC sur ce point. Néanmoins, le Conseil de sécurité était très clair aussi, quand il y a une violation des droits de l'homme, nous devons suspendre notre participation. Alors, nous suspendons dans la 2e brigade, dans la 213e brigade, et bien sûr, nous faisons tous les efforts et nous discutons avec toutes les autorités militaires pour que ceci ne se reproduise pas. Et donc, c'est évidemment, et je suis sûr que les autorités militaires sont conscientes également de l'importance cette situation inacceptable à Loukouéti ne se reproduise pas, parce qu'effectivement, la MONUC serait obligée à ce moment-là de suspendre son soutien.
Je vais vous lire la réaction d'un auditeur, hein. C'est le professeur Otemi Kongo de l'université de Kisangani. Il dit, la MONUC travaillant en partenariat avec les FRDC lui apporte son appui en les accompagnant dans leurs opérations. Je voudrais savoir où étaient les forces de la MONUC quand se commettaient les crimes. Si la MONUC appuyait les FRDC pendant la dite période, quelle serait sa part de responsabilité dans ces crimes?
Question évidemment très compliquée. Ce que la MONUC fournit, c'est essentiellement, planification conjointe, je l'ai dit, fourniture de nourriture, dans certains cas de carburant, soutien logistique. Bien. En même temps, nous ne pouvons pas être partout. La MONUC, c'est au total près de 20 000 hommes, et les Kivus, c'est 10 millions d'individus, 10 millions de personnes. Donc nous ne pouvons pas être systématiquement partout où opèrent les FRDC, qui sont bien sûr beaucoup plus nombreuses que la MONUC. Donc ce que nous devons faire, c'est que dans les zones, nous pensons qu'il y a des risques, et c'est évidemment essentiel que nous allions, et c'est pour ça que nous avons créé par exemple les Drone Protection Teams, les équipes de protection intégrées, pour aller voir les villages dès qu'on sent qu'il y a une menace sur la population civile. Alors, dans le cas de Loukouéti, ça n'a pas été suffisant, mais je peux vous rassurer, je peux vous assurer que nous allons encore développer ce système pour être présent dans tout, s'approcher de tous les villages dans lesquels des menaces potentielles pourraient avoir lieu.
Si je comprends la position de Human Rights Watch, la MONUC pourrait être accusée de crimes de guerre, de participer à des crimes de guerre.
Bon, évidemment, ça n'est pas notre sentiment, mais je le redis, nous pouvons soutenir les unités tant qu'elles ne commettent pas une violation des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Là-dessus, le Conseil de sécurité est très clair. S'il y a violation des droits de l'homme, nous cessons notre soutien.
Il y a un autre auditeur, c'est Norbert de Kalemi au Katanga qui vous pose la question, ou qui dit plutôt, suspendre l'appui logistique au FRDC n'est pas une solution durable pour la MONUC. Au contraire, elle devrait renforcer la capacité de l'armée congolaise pour établir les responsabilités, parce que ce n'est pas tous les FRDC qui auraient tué.
Oui, alors ça, nous le faisons par ailleurs. Évidemment, nous assistons, nous soutenons les FRDC en développant leurs capacités. J'ai visité moi-même une base d'entraînement, les unités FRDC récemment intégrées. Bon, tout cela se fait évidemment en parallèle. C'est évident qu'une grande tâche de la MONUC, c'est de contribuer, la MONUC et d'ailleurs d'autres partenaires de la communauté internationale, de contribuer, d'aider les autorités congolaises à développer, comme je l'ai dit, une armée républicaine et professionnelle et disciplinée. Bien, pour ça, ça fait en parallèle, c'est évidemment la solution. Simplement, il y a des cas d'urgence où nous ne pouvons pas être accusés de complices de crimes de guerre quand une unité a clairement violé les droits de l'homme.
Human Rights Watch termine ce dit rapport en demandant qu'il soit envisagé d'autres options n'entraînant pas de nouvelles violences contre la population de l'Est du Congo pour désarmer les milices FDLR. Quel est votre avis?
Bon, mais ça c'est évident, nous le faisons. Là, sur ce point-là, nous sommes entièrement d'accord. Nous le faisons, c'est ce que nous appelons une approche multidimensionnelle contre les FDLR. Il y a en ce moment l'opération militaire des FRDC, qui a notre soutien, comme je l'ai indiqué, mais en même temps, nous développons énormément d'autres aspects. D'abord, tous les programmes de DDRR, comme vous savez, très, très important, et là-dessus, c'est pour rapatrier le maximum, pour forcer les DDR par à se rendre et être rapatriés au Rwanda. Ensuite, évidemment, c'est la pression diplomatique sur tous les États qui hébergent des dirigeants du FDLR à l'étranger, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et là-dessus, je crois qu'il y a maintenant beaucoup de progrès et j'espère dans les prochaines semaines et prochains mois que l'arsenal juridique sera mis en place pour mettre fin aux activités de ces leaders du FDLR qui, depuis l'étranger, donnent des ordres, des financements et qui, évidemment, contribuent à déstabiliser la situation. Nous sommes aussi pour arrêter le financement qui pourrait venir de l'étranger. Donc là-dessus, c'est vraiment une approche l'aspect militaire, c'est peut-être celui qui est le plus visible, mais nous faisons beaucoup dans d'autres domaines Dans le sens d'ailleurs, parce que les Human Rights Watch.
Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que Dialogue entre Congolais reçoit un invité spécial, Alain Leroy, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix, qui fait le point de sa visite en RDC. Exceptionnellement, comme nous l'avons déjà dit pour aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure de recevoir vos réactions, chers auditeurs. Veuillez nous en excuser. Toujours Human Rights Watch, devant notre micro, a reconnu que ce sont les ex CNDP, les militaires ex-CNDP intégrés dans les FRDC qui sont responsables des massacres attribués de manière générale aux FRDC. Pourquoi la MONUC ne dénonce-t-elle pas 7% des FRDC clairement?
Parce que c'est l'objet exactement de l'enquête conjointe qui vient d'être lancée entre les FRDC et la MONUC pour établir clairement les responsabilités de qui la responsabilité est principale. Donc nous condamnons ces violences d'où qu'elles viennent, on verra bien le résultat de l'enquête conjointe et à ce moment-là et les choses seront dites très clairement, mais nous ne pourrons pas préjuger du résultat de l'enquête conjointe. Et je rappelle, entre la FRDC et la MONUC.
En parlant des alternatives, les autorités rwandaises ont appelé lundi l'ONU à considérer comme des terroristes les FDLR. Qu'est-ce que les Nations Unies entreprennent concrètement pour faire pression sur les dirigeants FDLR qui sont à l'étranger dans le but de mettre fin aux exactions commises par leurs troupes en RDC?
Alors, je vous dis un mot, elle fait beaucoup. Je peux vous dire que le secrétaire des Nations Unies, comme moi-même, comme l'ensemble du secrétaire des Nations Unies, intervient beaucoup auprès des chefs d'État, chefs de gouvernement ou responsables d'exécutifs des pays étrangers qui hébergent les FDLR pour leur demander de façon instante, avec beaucoup d'insistance, justement de prendre des mesures concrètes pour neutraliser ou voire extrader les dirigeants FDLR qui seraient à l'étranger, tous ceux qui envoient des ordres, des financements. Donc là-dessus, je peux vous dire que c'est une tâche constante des Nations Unies de convaincre ces pays que maintenir chez eux ces anciens dirigeants, ces dirigeants du FDLR qui alimentent la déstabilisation du pays est évidemment extraordinairement contre-productif pour la paix. Et je dois dire que je pense que nous allons dans les prochaines semaines, les prochains mois, voir les effets de cette pression diplomatique très forte que nous menons.
Voilà, c'est effectivement ça que j'allais vous demander parce que nous n'avons pas encore entendu jusque-là une liste des noms cités ou une saisie de biens des responsables FDLR. Ça peut intervenir dans combien de temps?
Alors, j'allais dire dans les prochaines semaines et prochains mois. Largement, une partie de ces actions sont discrètes, mais je peux dire qu'elles sont très intenses.
Alors, toujours en ce qui concerne la traque des FDLR, certains juristes congolais pensent que le mandat actuel de la MONUC permet aux casques bleus de traquer les FDLR en ligne de front avec le soutien des FRDC. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, juridiquement, c'est possible que la MONUC intervienne aussi parfois seule. Mais l'essentiel, c'est que pour le moment, c'est une opération décidée par les FRDC et dans laquelle nous apportons notre soutien logistique et dans certains cas opérationnel. Donc c'est le sens de la mission que nous menons pour le moment.
Toujours dans le cadre des alternatives, vous vous êtes rendu à Kigali. Certains observateurs pensent que la solution au problème des FDLR passe par l'organisation d'un dialogue inter-rwandais sous l'impulsion de la communauté internationale. Qu'en dites-vous?
Alors moi je crois que ce qui est essentiel, c'est que le Rwanda continue d'assurer les conditions de répatriation des FDLR au Rwanda. Comme vous savez, plus de 1200 combattants avec leurs familles sont déjà, les FDLR sont déjà rentrés au Rwanda, et c'est ça qui doit être continué et renforcé. C'est que les conditions d'accueil de ces gens-là permettent que ces FDLR soient répatriés au Rwanda. Le Rwanda travaille dans ce sens. Et c'est très important qu'il continue justement pour faciliter le travail de DDRRR, pour que les ex-combattants qui se rendent, et ils s'en rendent tous les jours un peu plus, je crois qu'au mois de septembre c'était 200, le nombre est en augmentation constante, très important que le Rwanda continue d'assurer les conditions de la rapatriation au Rwanda.
Là, il s'agit des conditions de rapatriement au Rwanda, mais au niveau de la scène politique rwandaise, certains compatriotes congolais pensent par exemple que les FDLR ici au Congo, on ne fait que les disperser au lieu de les faire retourner dans leur pays.
Alors, Je sais qu'une partie de ces DLR, pour le moment, c'est qu'elles se sont cachées dans les forêts. Et c'est sans doute ce à quoi vous faites allusion. Mais en même temps, je le dis beaucoup, la Monique, en liaison avec les FRDC, crée les corridors pour que ces anciens DLR, ces anciens combattants, puissent se rendre directement à la Monique, qui ensuite organise la répatriation. C'est ça l'essentiel. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas encore atteint tous les FDLR, mais le travail des FRDC est extraordinairement compliqué, le terrain est vaste et les FDLR ont tendance à se cacher dans le fin fond des forêts, donc ça rend le travail des FRDC très compliqué. Et donc tous ne sont pas rapatriés, sinon l'opération serait déjà terminée. Mais c'est bien le sens de l'opération. Les traquer et les forcer à se désarmer, à se rendre pour être rapatriés.
Mais est-ce que vous en avez parlé avec les autorités rwandaises?
Rwandaises ou congolaises?
Rwandaises, parce que je parle là du dialogue inter-rwandais qui est réclamé par beaucoup de Congolais.
Alors, on a parlé aux autorités rwandaises et nous insistons beaucoup sur les conditions de retour pour faciliter le retour de ces DLR au Rwanda, qui est leur place naturelle.
Je sais que les Nations Unies sont très sensibles aux droits humains, aux droits de l'homme, mais il y a beaucoup d'organisations qui luttent pour les droits de l'homme qui ont, par exemple, demandé à la MONUC de faire bouger un peu les choses en ce qui concerne certains officiers FRDC qui sont cités dans des rapports, notamment Bosco Ntaganda et tant d'autres. Que fait la MONUC dans cette démarche-là?
La MONUC continue de discuter avec les autorités congolaises sur ces différents points et nous le disons régulièrement, nous sommes tout à fait contre l'impunité à ceux qui seraient accusés seraient accusés de crimes de guerre. Nous le disons régulièrement et je veux dire, nous avons été très heureux lorsque le président de la République a décrété cette politique de zéro tolérance, de tolérance zéro. Je crois que ça va évidemment dans le bon sens. Alors il faut maintenant que l'appareil judiciaire suive et que les mesures prises se traduisent par effectivement des inculpations et des condamnations. Mais en tout cas, nous nous félicitons de cette politique de tolérance zéro affichée par le président de la République. Et évidemment, nous demandons sa mise en œuvre la plus rapidement possible.
Alors, qu'en est-il du prochain mandat de la MONUC?
Alors, le mandat de la MONUC se termine, comme vous savez, au mois de décembre. Donc il devra être renouvelé. Dans la discussion que j'ai au Conseil de sécurité, il est clair que ce mandat sera renouvelé, sans doute adapté à la nouvelle réalité politique, qui n'est plus la même que celle de l'année dernière, compte tenu des progrès diplomatiques effectués par la RDC avec ses voisins et des progrès très nets sur le terrain. Bien. Mais ce mandat peut-être pourrait être renouvelé pour une période un peu plus courte pour permettre à une discussion en commun avec les autorités congolaises. C'est les autorités souveraines congolaises avec qui nous discutons évidemment du mandat futur de la MONUC pour envisager à terme une reconfiguration de la MONUC, comme le souhaitent d'ailleurs les autorités congolaises. Et évidemment, leur souhait doit être évidemment pris en premier lieu en considération. Une reconfiguration de la MONUC qui pourrait se concentrer sur un nombre plus réduit de tâches essentielles, maintenant que quand même qu'une grande partie du pays est tout à fait pacifiée et que la situation dans l'Est s'est améliorée.
Quand vous dites que le mandat devrait être adapté au nouveau contexte, ça veut dire quoi concrètement?
Non, d'abord, l'année dernière, quand le mandat a été adopté, c'était au moment où le CNDP exerçait encore une menace militaire très forte contre notamment la ville de Goma. Depuis, les choses ont radicalement changé. Le CNDP est pour l'essentiel intégré dans l'armée. Cette intégration doit se poursuivre, bien sûr. Bon, donc ce contexte-là est évidemment très différent. Et donc, la résolution du Conseil de sécurité doit tenir compte de ce contexte. Bien, mais je pense que en décembre, quand le Conseil de sécurité se prononcera sur les tâches confiées à la MONUC, elles resteront globalement les mêmes. Simplement, il est très clair, et le président de la République le souhaite, et évidemment son avis est essentiel, à citer une reconfiguration de la MONUC, et c'est à ça à quoi nous allons travailler dans les prochains mois.
On a entendu à un certain moment parler de la délocalisation de l'effectif de la MONUC de l'ouest vers l'est. Est-ce que ça tient toujours?
Oui, c'est très clair. Du point de vue militaire, nous l'avons pour l'essentiel déjà effectué. Donc, militaire, 94% des effectifs militaires sont déjà dans l'est, 94%. du point de vue civil, en dehors du headquarter du quartier général à Kinshasa, c'est déjà près de 85% qui est déjà dans l'Est. Donc cette concentration dans l'Est, comme l'a demandé le Conseil de sécurité, c'est déjà pour l'essentiel effectué. Mais il y a encore des mouvements dans ce sens.
Mais au regard des derniers événements, par exemple tout récemment à l'Équateur, où il s'est élevé une forme de milice dans une tribu, tout ça, en revoyant la situation du Bas-Congo les années passées, vous pensez que dégarnir l'Ouest, c'est opportun maintenant?
Mais je crois que c'est important, les autorités congolaises en sont bien conscientes, que ce qui nous paraît essentiel, c'est ce que nous appelons la modernisation du secteur de sécurité congolais, sur le plan militaire, sur le plan policier et sur le plan de la justice. Et la solution, y compris dans l'Ouest, nous paraît dans cette voie. La professionnalisation de la police, c'est évidemment, la PNC a un rôle majeur à jouer là-dedans, et c'est bien normal. L'armée, donc une armée, comme je l'ai dit, plus professionnelle et plus disciplinée, tout ça, ça va dans le sens d'assurer la sécurité par les autorités congolaises et par leur armée, leur police, et ensuite la justice dans l'ensemble du territoire. C'est ça la voie sur laquelle je crois que le pays, la voie dans laquelle le pays est largement engagé.
Alors, on ne saura pas terminer ou clore ce chapitre sur le mandat de la MONUC hein, sans poser la question que se posent les Congolais chaque jour à quand le départ de la MONUC.
Alors ça, c'est une discussion que nous aurons avec les autorités, le président de la République, bien sûr. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que pratiquement 100% des personnes de la société civile que j'ai rencontrées dans l'Est en particulier, quasiment tous les parlementaires que j'ai rencontrés aussi à l'Assemblée nationale, au Sénat, tous demandent encore le maintien de la MONUC, au moins pour un certain temps. La question, c'est combien de temps ? Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est un dialogue entre les autorités congolaises, le président de la République en premier, et les membres du Conseil de sécurité. Donc je n'ai pas de réponse à cette question. Simplement, je crois que tout le monde est d'accord qu'il y a convergence sur la nécessité de reconfigurer la MONUC pour la concentrer, sur un beaucoup moins nombre de tâches, les tâches qui seraient essentielles pour continuer à consolider la paix au Congo. Et en particulier pour contribuer à la professionnalisation du secteur de sécurité pour que toutes ces tâches soient exercées par les autorités militaires et policières congolaises.
Est-ce que le contexte actuel de crise financière mondiale va-t-il permettre à la MONUC, qui est la plus grosse mission au monde, de garder son budget?
Alors c'est vrai que chaque année la discussion budgétaire est très difficile, a été très difficile l'année dernière, mais néanmoins l'ensemble des États membres, vous savez que le budget est adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies, donc par les représentants des 192 États membres, le budget normalement, avec beaucoup de discussions, a été voté l'année dernière. Bien, nous allons voir cette année évidemment comment les choses se passent, mais je crois qu'en tout cas ce n'est pas les raisons budgétaires qui doivent amener à baisser la garde en termes de sécurité. Là-dessus, c'est trop important. C'est beaucoup plus les discussions avec les autorités congolaises et la situation sur le terrain qui doivent dicter la taille et la reconfiguration de la MONUC.
Le Conseil de sécurité avait décidé l'envoi de près de 3000 casques bleus. Il y en a déjà, je crois, une centaine qui sont arrivés. Qu'en est-il du reste de cet effectif?
Là, beaucoup plus sont arrivés. Là, maintenant, c'est les 3000, essentiellement, qui viennent du Bangladesh et d'Égypte et des forces spéciales de Jordanie. J'en ai déjà visité, moi, sur le terrain. J'ai vu les Égyptiens qui étaient arrivés. Les Bangladeshis, une partie est déjà arrivée. Aussi, là, j'ai visité leur unité de police. Donc, entre maintenant et fin décembre ou tout début janvier, je crois que la totalité de ces 3000 seront arrivés. Et ils sont très importants parce qu'ils permettent d'assurer la réserve. Si on veut aider à protéger les civils, la notion de mobilité est très importante. Et comme nous sommes répartis dans un très grand nombre de bases, de différentes bases dans le nord et le sud Kivu, ces bases peuvent avoir besoin de renforts. Et très important qu'on ait une réserve qui soit très mobile pour aller repérer tous les endroits dans lesquels il y a des menaces contre les populations civiles.
Alors, vous avez rencontré les autorités congolaises. Qu'est-ce qui est ressorti de ces différentes rencontres?
Là, je crois qu'elles ont toutes exprimé leur appréciation de l'activité de la MONUC et c'était le début du dialogue sur la reconfiguration de la MONUC, la future MONUC, qu'est-ce qui restera, qu'est-ce qui devra s'arrêter. C'est le début de ce dialogue et nous allons utiliser les prochains mois, les tout prochains mois, pour finaliser ce dialogue, pour qu'il y ait une proposition au Conseil de sécurité, pour qu'il se prononce sur qu'est-ce qu'il souhaite, en accord avec les autorités congolaises, du futur de la MONUC dans ce pays, qui forcément sera différent et réduit.
Vous avez rentré à New York ces derniers temps, hein, la RDC est pratiquement sous le feu des différents rapports des droits de l'homme dont nous avons évoqué certains ici. Maintenant, en rentrant à New York, comment allez-vous orienter votre plaidoyer en faveur de la RDC?
Ben, c'est vrai que mon rôle est aussi d'être l'avocat de la RDC auprès de New York et du Conseil de sécurité auquel je rencontre régulièrement. Donc je rendrai compte de ce que j'ai vu sur le terrain et de ce que m'ont dit les autorités, bien entendu. En même temps, je rendrai compte des difficultés extrêmes de la mission et en particulier de cette question de problèmes de droits de l'homme. C'est évident que le FDLR en ce moment continue de faire des actions de représailles contre des populations qui sont inacceptables. Donc il y a encore une tâche très importante à faire par la FRDC et par la MONUC. Bien. Mais en même temps, je crois que l'essentiel maintenant, c'est que cette opération aille à son terme. Et que nous envisageons, comme je l'ai dit, la reconfiguration de la MONUC.
Alors, dernière question avant de clôturer cette émission. Quel message pouvez-vous donner à tous les Congolais qui vous suivent et qui attendent beaucoup des Nations Unies?
Je veux dire, c'est d'abord d'avoir confiance en eux-mêmes. Je crois que quand même, depuis 10 ans de présence à MONUC, un grand nombre de progrès ont été accomplis par les autorités congolaises. J'ai toujours en tête, évidemment, les élections de 2006, qui ont été un progrès remarquable dans la démocratie en RDC, et qui ont été saluées par tout le monde, et ça n'est pas oublié. Il est important maintenant que les prochaines étapes démocratiques arrivent, les prochaines élections locales, puis présidentielles en 2010, puis les présidentielles en 2011, là-dessus. Énormément de progrès ont été accomplis, ne serait-ce que par rapport à la dernière, en RDC, par les responsables de la RDC, c'est très important, et la MONUC est prête à accompagner, mais je l'ai dit, est toute prête à se reconfigurer et à réduire ses activités en liaison avec les autorités congolaises.
Alain Leroy, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, c'était Alain Hirong. Je recevais en invité spécial Alain Leroy, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix, qui faisait le point de sa visite en RDC. La réalisation de cette émission était assurée par Céline Couté, la préparation par Samuel Kachak, la technique par Sylvain Baogwere et Bob Landou, sous la coordination de Martin Sebujangwe. Au revoir. Thank you.